Chapitre 3. 1. Le vendredi soir, aussitôt que les plénipotentiaires furent sortis de la salle du conseil à Westminster, Olivier Brandt se prépara à rentrer chez lui. Car l'effet qu'allait produire sur le monde la nouvelle décision prise l'inquiétait moins que celui qu'elle allait produire sur sa femme. Ce changement profond qu'il constatait maintenant dans toute la personne de Mabel, il en faisait remonter l'origine jusqu'à ce jour de l'automne précédent où le président du monde avait, pour la première fois, exposé l'ensemble de sa politique et les mesures de rigueur que celle-ci comportait inévitablement. Olivier lui-même avait bientôt fini par consentir à cette politique, sinon par l'approuver entièrement. Peu à peu, à force d'avoir à la défendre devant le public, en sa qualité d'orateur favori du peuple, il en était venu à se convaincre de sa nécessité. Mais Mabel, au contraire, tout de suite et pour toujours, s'était montrée absolument obstinée dans sa désapprobation. La pauvre Mabel semblait, positivement, être tombée dans une sorte de folie. Lorsque d'abord elle avait eu connaissance de la déclaration de Felsenburgh, elle avait refusé d'y croire, s'appuyant sur le souvenir, encore tout proche, de la façon dont le président, à l'abbaye, avait blâmé les meurtres des chrétiens et proclamé son respect de la vie humaine. Mais ensuite, quand aucun doute n'avait plus été permis et que Mabel avait dû admettre que Felsenburgh avait déclaré possible l'éventualité d'une suppression radicale de tous les croyants au surnaturel, il y avait eu une scène affreuse entre la jeune femme et son mari. Elle avait dit qu'on l'avait trompée, que l'espérance du monde était une monstrueuse moquerie, que le règne de la paix universelle était aussi éloigné que jamais, et plus éloigné que jamais de son avènement, et que Felsenburgh avait trahi ses engagements et rompu sa parole. Oui, la scène avait été affreuse. Olivier, à présent encore, tâchait à en effacer le souvenir de son esprit. Puis, peu à peu, Mabel avait paru se calmer. Mais tous les arguments qu'il lui avait débités, avec une patience et une habileté extrêmes, avaient manifestement échoué à produire le moindre effet. Elle s'était plongée dans le silence, lui répondant à peine quelques mots quand il l'avait pressée. Une seule chose semblait l'émouvoir. C'était lorsque son mari lui parlait de Felsenburgh. Olivier avait dû se consoler en songeant que sa femme, tout compte fait, n'était qu'une femme, un être faible, à la merci d'une personnalité vigoureuse, mais échappant à toute prise de logique. Et, malgré cette consolation, le désappointement qu'il avait éprouvé lui avait été cruel, pourvu au moins que le temps réussît à la rendre plus sage. D'autre part, le gouvernement de l'Angleterre avait recouru, très vite, à des procédés très intelligents et très adroits pour rassurer tous ceux qui, comme Mabel, étaient tentés de reculer devant l'inévitable logique de la politique nouvelle. Une armée d'orateurs avait parcouru les villes et les provinces, défendant et expliquant. La presse avait travaillé avec une activité extraordinaire à convaincre l'opinion. Et l'on pouvait bien dire qu'il n'y avait pas une seule personne parmi les millions des habitants de l'Angleterre, dont les scrupules et les objections n'eussent été directement prévus, raisonnés et réfutés, suivant l'esprit du gouvernement. En résumé, et abstraction faite de toute rhétorique, voici quels étaient les arguments invoqués en faveur de cette politique, arguments qui, sans aucun doute, dans un très grand nombre de cas, avaient eu pour effet d'apaiser la surprise et la révolte des âmes sentimentales. On faisait remarquer d'abord que pour la première fois dans l'histoire du monde, la paix était devenue une réalité universelle. Il ne restait plus un seul État, si petit ou si lointain qu'il fût, dont les intérêts ne fussent identiques à ceux de l'une des trois divisions du monde à qui cet État se rattachait. Et ce premier degré de l'humanisation définitive s'était accompli depuis environ un demi-siècle déjà. Mais le second degré, la réunion de ces trois divisions en un même tout, résultat infiniment supérieur au précédent, puisque les intérêts en conflit étaient incalculablement plus considérables, cette œuvre-là avait été accomplie par une seule personne, qui avait brusquement émergé de l'humanité à l'instant même où un rôle comme celui qu'elle avait joué s'était trouvé nécessaire. Et, dans ces conditions, étant donné l'énormité du bienfait conféré aux hommes par ce personnage, ce n'était point, certes, demander beaucoup, que d'exiger que tous les hommes approuvassent sa volonté, son jugement, dans une matière où, de la façon la plus évidente, il ne s'agissait encore que de leur salut. Ainsi, ce premier argument était un appel à la confiance du cœur. Le second grand argument s'adressait à la raison. La persécution, comme le reconnaissaient tous les esprits éclairés, était la méthode employée par une majorité d'hommes cruels et ignorants, qui désiraient imposer de force leur opinion à une minorité se refusant à adopter spontanément ses opinions. Le caractère particulier de malveillance de la persécution, telle qu'elle avait existé dans le passé, n'avait point consisté dans l'emploi de la force, mais dans l'abus qu'on en avait fait. Qu'un royaume quelconque, par exemple, voulût dicter ses opinions religieuses à une minorité de ses membres, c'était là une tyrannie intolérable. Car aucun État ne possédait le droit d'émettre des lois universelles, pendant que son voisin était libre d'en émettre d'autres tout opposées. Cette forme de persécution n'était, au fond, que l'individualisme national, c'est-à-dire une hérésie plus désastreuse encore pour le bien-être commun du monde que l'individualisme personnel. Mais, avec l'avènement de la communauté universelle des intérêts, la situation avait entièrement changé. L'unique personnalité totale de la race humaine s'était substituée à l'incohérence des personnes séparées. Et, avec cette unification, qui pouvait être comparée à un passage de l'adolescence à la maturité, une série absolument nouvelle de droits avait pris naissance. La race humaine était désormais une seule et même entité, avec une responsabilité suprême envers lui. Et il ne pouvait plus être question maintenant d'aucun de ces droits privés, qui certainement et légitimement avaient existé durant la période antérieure. L'homme, à présent, possédait une domination souveraine sur chacune des cellules qui composaient ce que l'on pourrait appeler son corps mystique. Et lorsque l'une de ces cellules agissait au détriment du reste du corps, les droits de l'ensemble étaient illimités. Et puis, il n'y avait au monde qu'une seule religion dont l'existence fut dangereuse, par la prétention qu'elle manifestait à une autorité universelle, la religion catholique. Les sectes de l'Orient, dont chacune gardait son individualité propre, n'en avaient pas moins trouvé, dans l'homme nouveau, l'incarnation de leur idéal, et, par conséquent, s'étaient soumises à la suprématie du grand corps total, dont il était la tête. Mais la religion catholique, elle, avait pour essence la trahison contre la véritable idée de l'homme. Les chrétiens déféraient leur hommage à un être surnaturel imaginaire qui, d'après ce qu'ils affirmaient, non seulement était supérieur au monde, mais avait encore sur le monde un pouvoir transcendant. De sorte que les chrétiens, délibérément, se retranchaient de ce corps total dont, de par leur génération humaine, ils avaient fait partie. Ils étaient comme des membres morts, se soumettant à la domination d'une force extérieure autre que celle qui aurait pu les faire vivre. Et, par cet acte même, c'était le corps tout entier qu'ils mettaient en danger. Il ne s'agissait point de supprimer leur folle croyance à la fable insensée de la carnation. Cette croyance, on aurait parfaitement pu la laisser mourir de sa propre mort. Mais le refus des chrétiens de puiser leur vie à la source commune, voilà quel était leur crime, le véritable et seul crime qui mérita encore d'être appelé de ce nom. Car qu'était le vol, l'escroquerie, le meurtre ou même l'anarchie en comparaison de ce délit monstrueux? Toutes ces fautes, à coup sûr, endommageaient le corps de l'humanité, mais elle ne la frappait pas au cœur. Elle faisait souffrir des individus, et à ce titre devait être empêchée, mais elle ne compromettait point la vie de l'ensemble. Seul le christianisme avait en soi un poison mortel. Chaque cellule qui en devenait infectée voyait se détruire en elle la fibre qui la rattachait à la grande source de vie. Le crime suprême de haute trahison contre l'homme, cette religion seule le commettait, et nul autre remède adéquat ne pouvait convenir contre elle que sa complète suppression de la surface du monde. Tels étaient les principaux arguments adressés à cette section de l'humanité, qui avait, d'abord, risqué de prendre alarme des mesures proposées, ou plutôt simplement déclarées possibles par le président. Et leur succès avait été merveilleux. Il va sans dire que, d'ailleurs, leur contenu logique avait été revêtu d'une extrême variété de costumes, doté de rhétorique, animé de passion. Et il avait produit son effet si rapidement que quelques mois après, dans des communications officieuses, Felsenburgh avait pu annoncer son intention de faire voter bientôt une loi qui pousserait à ses conclusions nécessaires le système politique exposé par lui. Et maintenant, cela venait d'être accompli. 2. Olivier, en rentrant chez lui, monta aussitôt dans la chambre de Mabel. Il ne voulait point qu'elle apprît la nouvelle d'autre personne que de lui. Mais la jeune femme était absente, et les domestiques dirent à son mari qu'elle était sortie déjà depuis plus d'une heure. Ceci le déconcerta considérablement. Le décret avait été signé une demi-heure auparavant, et en réponse à une question de Lord Pemberton, l'Assemblée avait déclaré qu'il n'y avait plus désormais aucun motif de secret, de sorte que la décision pouvait être immédiatement communiquée à la presse. C'était pour ce motif qu'Olivier s'était empressé de rentrer chez lui afin d'être le premier à informer Mabel. Et voici qu'elle était sortie et que, d'une minute à l'autre, les affiches risquaient de lui apprendre le grand événement. Il se sentait extrêmement mal à l'aise. Mais, pendant une heure encore ou plus longtemps, un sentiment de honte l'empêcha d'agir. Puis il appela de nouveau la femme de chambre pour l'interroger. Mais on ne savait rien des intentions de Mabel. Peut-être était-elle allée à l'église voisine. Elle ne le faisait plus que rarement depuis plusieurs mois, mais jadis elle l'avait fait presque chaque jour. Olivier envoya la domestique à l'église et lui-même s'assit auprès de la fenêtre, dans la chambre de sa femme, considérant tristement la vaste étendue des toits, dans la lumière dorée du soleil couchant, qui, ce soir-là, lui semblait offrir un aspect tout à fait extraordinaire. Le ciel n'avait point cette teinte d'or pur qu'il avait eue chaque nuit durant la semaine précédente. On y distinguait des nuances roses qui s'étendaient sur la voûte entière, aussi loin qu'Olivier pouvait voir, du levant au couchant. Il songeait machinalement à ce qu'il avait lu l'autre jour dans les journaux sur d'étranges modifications survenues dans l'atmosphère en certaines régions de l'Asie. La veille, il y avait eu de terribles tremblements de terre en Amérique, et le matin même, une sorte de cyclone prodigieux avait détruit plusieurs villes des pays scandinaves. Il se demandait si quelque rapport singulier n'existait pas entre cet aspect inaccoutumé du ciel et... Mais tout à coup, sa pensée revint à Mabel. 5 minutes après, il eut enfin le soulagement infini d'entendre son pas léger dans l'escalier. Et il se leva pour aller au-devant d'elle. Quelque chose sur le visage de la jeune femme lui révéla qu'elle savait tout. Elle se tenait au reste toute droite, avec une raideur inaccoutumée, et ses traits étaient plus pâles que jamais. On n'y lisait aucune colère, cependant, ni rien d'autre qu'un désespoir immense et une résolution immuable. Ses lèvres montraient une ligne toute droite, et ses yeux, sous son large chapeau blanc, semblaient étrangement contractés. Et elle restait là, ayant refermé la porte derrière elle, sans faire aucun mouvement vers son mari. « Est-ce vrai ? » demanda-t-elle. Olivier prit une longue aspiration et se rassit. « De quoi veux-tu parler, ma chérie ?»« Est-ce vrai ? » reprit-elle, que tous les hommes vont être interrogés sur leur croyance en Dieu et tués s'ils avouent cette croyance ? Olivier humecta ses lèvres desséchées. « Tu emploies des termes bien durs. Toute la question est de savoir si le monde a le droit. » Mais elle l'interrompit d'un vif mouvement de tête. « Et c'est vrai ? Et tu as signé cela ? Ma chérie, je te supplie de ne pas faire de scène. Je suis à bout de force, et je ne répondrai à ta demande qu'après que tu aurais écouté ce que j'ai à te dire. « Bien, dis-le. Assieds-toi d'abord. » Mais elle dit non d'un geste muet. « Comme tu voudras. Eh bien, voici la vérité. Le monde à présent est un et non plus divisé. L'individualisme est mort. Il a cessé de vivre lorsque Felsenburgh est devenu président du monde. Tu ne peux pas être sans te rendre compte que des conditions absolument nouvelles existent à présent qui ne ressemblent en rien à ce qu'il y a eu jusqu'ici. Tu sais tout cela aussi bien que moi. » De nouveau, il fit un petit signe de tête d'impatience. « Non, il faut que tu me fasses le plaisir de m'écouter jusqu'au bout, » dit-il d'un ton las. « Eh bien, maintenant que tout cela se produit, le monde doit adopter une morale nouvelle, et c'est exactement comme un enfant qui parvient à l'âge de raison. Et par conséquent, nous sommes obligés de veiller à ce que le progrès puisse continuer, à ce qu'il n'y ait point de recul, à ce que tous les membres soient en bonne santé. « Si votre main vous offense, coupez-la, » disait leur Jésus. « C'est exactement ce que nous disons. Or, lorsque quelqu'un affirme qu'il croit en Dieu, car je doute fort qu'il puisse se trouver quelqu'un pour y croire réellement, ou même pour comprendre ce que cela signifie, mais le fait seul de dire qu'on croit en Dieu, c'est le pire des crimes concevables désormais. C'est un crime avéré de haute trahison. Et cependant, il ne s'agit nullement d'employer la violence. Tout se passera de la façon la plus douce et la plus compatissante. Toi-même, toujours, tu as approuvé nos institutions d'euthanasie. Eh bien, c'est à ces procédés et aux plus charitables que l'on aura recours. » Une fois de plus, elle fit un petit mouvement avec sa tête. Le reste de son corps était comme une statue. « Est-ce bien utile que tu me dises tout cela ? » demanda-t-elle. Olivier sursauta. Il ne pouvait supporter l'accent trop dur de sa voix. « Ma belle, mon trésor aimé !» Pour un instant, les lèvres de la jeune femme frémirent, et puis, de nouveau, elle le regarda avec des yeux de glace. « Non, je t'assure, » dit-elle, « tout cela est inutile. Et ainsi tu as signé ?» Olivier eut une sensation atroce de désespoir en levant les yeux sur elle. Il aurait infiniment préféré la voir révoltée, furieuse et pleurante. « Ma belle, » s'écria-t-il, « donc tu as signé ?»« J'ai signé, » dit-il. Elle se retourna et fit un pas vers la porte. Mais il s'élança sur elle. « Ma belle, où vas-tu ? » Et alors ma belle, pour la première fois de sa vie, mentit à son mari, pleinement et résolument. « Je vais me reposer un peu, » dit-elle, « je te reverrai tout à l'heure à souper. » Il hésitait encore à la laisser partir. Mais il rencontra son regard, bien pâle en vérité, mais si honnête et si pur qu'il en fut consolé. « Très bien, ma chérie. Seulement, je t'en conjure, ma belle, essaie de comprendre. » Une demi-heure plus tard, il descendit pour le souper, armé de logique, mais aussi enflammé d'émotion. Les arguments qu'il allait exposer à sa femme lui semblaient à présent d'une force irrésistible. Étant donné les prémices que tous deux avaient acceptées et sur qui tous deux avaient fondé leur vie, la conclusion était simplement nécessaire et fatale. Il attendit une minute ou deux, puis ne voyant pas arriver ma belle, il prit le tube qui communiquait avec l'office. « Où est Madame Brand ? » demanda-t-il. Il y eut un instant de silence, après quoi la réponse. « Madame est sortie il y a une demi-heure, monsieur. » « Je pensais que monsieur en était informé. » 3. Ce même soir, M. Francis était très occupé dans son bureau des détails de la grande fête de la solidarité qui allait être célébrée le 1er juillet. On avait décidé d'apporter quelques modifications au rituel de l'année précédente, et le grand cérémoniaire avait à cœur que cette fête prochaine lui fît le même honneur que toutes les autres. Et ainsi,
Avec son modèle devant lui, une petite reproduction en carton de l'intérieur de l'abbaye, avec de minuscules figures de bois pouvant être transportées d'un endroit à l'autre, il était en train d'ajouter de sa fine et précise écriture ecclésiastique des notes marginales sur son exemplaire de l'ordre des cérémonies. Aussi, lorsque le portier de la maison, quelques minutes après 21 heures, lui téléphona qu'une dame désirait le voir, il répondit d'une façon plutôt brusque que c'était impossible. Mais le timbre du téléphone retentit de nouveau, et, à sa question impatientée, la réponse fut que c'était Madame Brandt qui était en bas, qui d'ailleurs ne demandait pas plus de 10 minutes d'entretien. Ceci changeait complètement la situation. Olivier Brandt était un personnage considérable, et sa femme, par contre-coup, en était un autre. Monsieur Francis, avec 1000 excuses, ordonna qu'on la conduisît à son appartement. Elle paraissait très calme ce soir-là, se dit-il en lui serrant la main. Elle avait abaissé son voile, de sorte qu'il ne pouvait pas bien distinguer son visage, mais sa voix lui paraissait avoir perdu sa vivacité ordinaire. « Je regrette infiniment de vous déranger, monsieur Francis, » dit-elle. « Je désirerais simplement vous poser une ou deux questions. » Il lui sourit d'un sourire encourageant. « Monsieur Brand, sans doute. » « Non, dit-elle, ce n'est pas monsieur Brand qui m'envoie. Je viens pour une affaire qui m'est strictement personnelle. Vous comprendrez mes raisons tout à l'heure. Je commence aussitôt car je sais combien vos minutes sont précieuses. » Il songea que tout cela avait une tournure un peu singulière, mais évidemment il allait comprendre bientôt. « D'abord, dit-elle, je crois que vous avez connu le père Franklin. Il est devenu cardinal, n'est-ce pas ?» Monsieur Francis, avec un sourire, répondit affirmativement. « Et savez-vous s'il vit encore ?»« Non, dit-il, le père Franklin est mort. Il était à Rome lorsque cette ville a été détruite. » Un seul de tous les cardinaux a pu s'échapper, Steinmann, qui a été pendu à Hambourg quelque temps après. « Eh bien, monsieur, voici une question que j'ai à vous poser, faute de pouvoir la poser à ce père Franklin, qu'elle aurait touché au plus près en sa qualité de fidèle catholique. J'y ai un intérêt particulier que je ne peux vous expliquer, mais qui... Enfin, voici ma question. Pourquoi les catholiques croient-ils en Dieu ?» L'ex-prêtre fut si saisi qu'il se redressa en sursaut et leva sur la jeune femme un regard stupéfait. « Oui, reprit-elle tranquillement, je sais que ma question doit vous paraître bizarre, mais... » Elle parut hésiter un instant et puis prendre son parti. « Voilà, dit-elle, je vais tout vous dire. Le fait est que j'ai une amie qui est en très grand danger de par cette loi nouvelle. » Je voudrais infiniment pouvoir discuter avec elle et la ramener à la raison. Mais elle met une obstination insensée à me cacher ses sentiments, de sorte que je ne puis arriver à savoir sur quoi elle les fonde. Et comme vous êtes désormais le seul prêtre que je connaisse, je veux dire le seul homme ayant été un prêtre, maintenant que le père Franklin n'existe plus, j'ai pensé que vous ne refuseriez pas de me renseigner. Sa voix était parfaitement naturelle, sans l'ombre d'une hésitation ni d'un embarras. Monsieur Francis changea sa mine étonnée en un sourire fin et frotta doucement ses mains l'une contre l'autre. « Ah, je comprends, dit-il. Eh bien, c'est que la question est très vaste. Est-ce que demain, par exemple ?» La réponse la plus courte me suffirait, mais il est d'importance absolue que je sois renseigné tout de suite. « La nouvelle loi, comme vous le savez, entre en vigueur. Eh bien, dit-il, pour résumer la chose en deux mots, voici ce qui en est. Les catholiques prétendent que Dieu peut être perçu par la raison humaine et que, de la disposition de ce monde, ils peuvent déduire qu'il doit y avoir eu un créateur et un directeur, un esprit surnaturel, comprenez-vous ? Et puis ils disent qu'ils peuvent encore en déduire plusieurs autres choses au sujet de ce Dieu. » Et notamment qu'il est amour, à cause du bonheur. « Et la souffrance ? » interrompit-elle. Il sourit de nouveau. « Eh oui, c'est là le point faible. » « Mais enfin, que disent-ils à ce sujet ? » « Eh bien, ils disent que la souffrance est le résultat du péché, Et le péché, c'est que, voyez-vous, monsieur Francis, je ne sais absolument rien de tout cela. Le péché, ce serait la révolte de la volonté humaine contre Dieu. Et qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils disent que Dieu voulait être aimé de ses créatures et qu'ainsi il les a faites libres, car sans cela, elles n'auraient point pu l'aimer réellement. Mais, si elles sont libres, cela signifie qu'elles peuvent, à leur gré, refuser d'aimer Dieu et de lui obéir. Et c'est cela précisément que l'on appelle le péché. Vous voyez maintenant quelles absurdités. Elle fit un léger mouvement de tête. Oui, oui, mais je voudrais arriver vraiment à connaître tout ce que pensent ces catholiques. Et alors, c'est tout ? Oh non, certes, s'écria M. Francis avec un sourire plus gros. Cela, c'est simplement ce qu'ils appellent la religion naturelle. Mais ils croient bien d'autres choses encore. Quelles choses ? Je vous assure, madame, qu'il m'est tout à fait impossible de vous exposer cela en quelques mots. Mais, par exemple, ils croient que Dieu est devenu homme pour les sauver du péché en mourant.
En souffrant pour eux, sans doute.
Oui, en souffrant et en mourant pour eux. Au fait, ce qu'ils appellent l'incarnation est le centre même de toutes leurs croyances. Tout le reste en découle. Et je dois avouer que, une fois que l'on vient à admettre cette incarnation, je dois avouer que tout le reste en découle nécessairement. Tout, jusqu'au scapulaire et à l'eau bénite. Hélas, monsieur Francis, je ne comprends rien à toutes ces choses. Le sourire du grand cérémoniaire se nuança d'indulgence. « Je vous crois sans peine, dit-il. Tout cela est d'une folie extravagante. Et cependant, voyez-vous, il y a eu un temps où j'y ai cru moi-même. »«
Mais c'est contraire à la raison, dit-elle. »
Il eut un petit geste ambigu. « Oui, dit-il, en un sens, cela est entièrement contraire à la raison. Mais en un autre sens... » Soudain, elle se pencha en avant, de tout son corps, et il put apercevoir l'éclat enflammé de ses yeux sous son voile blanc. « Ah ! Dit-elle, presque sans souffle, voilà justement ce que je désirais apprendre. Oui, dites-moi comment il se justifie de croire à de telles doctrines. » Il se tut un moment et parut réfléchir. « Eh bien, dit-il lentement, autant que je puisse me rappeler, ils disent qu'il y a encore d'autres facultés à côté et même au-dessus de celles de la raison. Ils disent par exemple que parfois le cœur découvre des choses que la raison ne voit pas, des intuitions, comprenez-vous. Ainsi, ils disent que toutes les choses telles que le sacrifice de soi-même et l'honneur et même l'art, que tout cela provient du cœur, que la raison n'y intervient qu'ensuite, dans les règles du métier artistique, par exemple, mais qu'elle ne peut pas les prouver et qu'elles sont absolument au-dessus d'elle. Il me semble que je comprends. Eh bien, ils disent que la religion est, elle aussi, l'une de ces choses-là, ce qui revient, en d'autres termes, à reconnaître qu'elle est simplement affaire d'émotion. De nouveau, il s'interrompit, comme s'il avait l'impression d'avoir été injuste. En fait, non, ils ne disent pas absolument cela, encore que ce soit la pure vérité. Mais, en un mot, eh bien, en un mot, ils disent qu'il y a quelque chose qui s'appelle la foi, une sorte de conviction profonde qui ne ressemble à rien d'autre, une grâce surnaturelle que Dieu est supposé accorder à ceux qui la désirent, à ceux qui prient pour l'obtenir et qui mènent des vies bonnes, et ainsi de suite. Et donc, cette foi agissant sur ce qu'ils appellent les témoignages, cette foi les rend absolument certains qu'il y a un Dieu, qu'il s'est fait homme, et tout le reste, jusqu'à l'Église dans ses moindres détails. Et ils disent encore que cela est prouvé pratiquement par l'effet que leur religion a produit dans le monde, et par la manière dont elle explique à l'homme sa propre nature. Au fond, voyez-vous, ce n'est rien de plus qu'un cas d'autosuggestion. Il lui sembla entendre un soupir. Il s'arrêta brusquement. « Tout cela est-il un peu plus clair pour vous à présent, madame Brand ?»«
Je vous remercie infiniment, dit-elle. C'est beaucoup plus clair à présent.
Et c'est bien vrai que d'innombrables chrétiens sont morts pour cette foi telle qu'elle est ?»«
Oh oui, des milliers et des milliers. Tout à fait comme les mahométans ont fait pour leur foi à eux. »«
Les mahométans croient en Dieu aussi, n'est-ce pas ?»«
Ils y croyaient en tout cas. » Et peut-être en reste-t-il encore quelques-uns pour y croire aujourd'hui. Mais fort peu.
tout le reste est devenu ésotérique, comme ils disent. » La jeune femme ne répondit rien, et M. Francis eut tout le loisir de songer à ce que son attitude avait de singulier. Il se dit que, certes, elle devait être bien attachée à cette amie chrétienne qu'elle désirait convertir. Puis elle se leva, et il se leva avec elle. « Encore mille fois merci, monsieur Francis. Il ne faut pas que je vous interrompe dans votre travail. » Il l'accompagna vers la porte. Mais, après avoir fait quelques pas, elle s'arrêta. « Et vous, monsieur Francis, vous avez été élevé dans toutes ces croyances. Est-ce que parfois elles vous reviennent ?» Il sourit de nouveau. « Ma foi, non, dit-il, jamais, si ce n'est comme un rêve. Et comment expliquez-vous cela ? Ou plutôt, comment vos anciens compagnons, les catholiques, expliqueraient-ils cela ? Ils diraient que j'ai abandonné la lumière, que la foi s'est retirée de moi. Et vous ? Il réfléchit un moment. « Moi, je me dirais que je me suis imposé une autosuggestion plus forte dans un autre sens. Voilà tout. » « Je comprends. Bonne nuit, monsieur Francis. » Elle ne voulut point le laisser descendre avec elle dans l'ascenseur. Et, ainsi, quand il eut vu la cage de fer s'abaisser, doucement et sans bruit, au-dessous du palier, il s'en retourna à son modèle de l'abbaye et aux petits bonshommes de bois. Mais avant de recommencer à les faire marcher, longtemps, il resta assis, les lèvres serrées, les yeux perdus dans le vide.